Grenouille vous invite maintenant à un voyage dans le temps et dans l'espace. Un parcours d'une heure entre Prague et les États-Unis, avec bien sûr une longue escale à Marseille, sur les traces d'artistes en exil peu après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. À l'occasion de la venue de la compagnie Golem Théâtre au Lanche jusqu'au 14 novembre, puis à l'Alcazar, nous avons voulu écouter les voix des auteurs, interprètes et proches du projet Europe intellectuelle en fuite. Des voix qui nous donnent à entendre tout ce qu'une époque fait miroiter du ciel dans la flaque étrange de ses comportements. Des voix qui évoquent, à partir des aventures de Franz Werfel et Alma Mahler, un moment où vivre, c'est perdre des pays et dessiner de nouvelles cartes dans la cendre laissée par les mouvements de l'histoire. Voici donc une heure en compagnie de Frédérica Smetana, Michal Lasnowski, Henri Dumollier et Vladislav Snorko, avec la complicité de Christophe Bon.
Alors nous sommes ici aujourd'hui pour vous raconter une histoire qui s'est passée entre l'Europe centrale et Marseille. Et donc cette histoire plus ou moins connue par les habitants de Marseille, nous en avons fait un projet qui s'appelle l'Europe intellectuelle en fuite. Et le point de départ de cette histoire, c'est un spectacle et un texte écrit par Michal, ici présent, Michal Lasnowski, auteur tchèque, un texte qui s'appelle « Alma et Franz » ou « L'excursion en montagne » et qui raconte la fuite d'Alma Mahler et de Franz Werfel à travers les Pyrénées, sauvés par Varian Fry, qui était donc un Américain qui a essayé donc pendant la guerre d'aider des intellectuels et des artistes à fuir le nazisme.
On peut dire quelques mots par rapport à Varian Fry, parce que je crois que c'est un élément important dans notre démarche.
Henri Dumollier.
Et c'est intéressant de voir un tout petit peu ce qui s'est passé avec Varian Fry à cette époque-là. Peut-être le situer aussi en tant que tel. Je veux dire, Varian Fry, c'est un journaliste américain qui est passionné d'art et qui se retrouve donc en 35 à Berlin comme correspondant. Et qui découvre donc ce qu'est l'horreur du nazisme, des pogroms. Il assiste même, dit-on, donc à une scène où un juif assis à une table reçoit un coup de couteau à travers la main, et donc il repart horrifié de tout cela. Et c'est lui qui va commencer donc à collecter des fonds avant la guerre, considérant qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Et ces choses, malheureusement, vont se passer puisque dans le titre « L'Europe intellectuelle en fuite », ce qu'il faut bien voir, c'est effectivement l'arrivée de toute cette culture de ce qu'on a appelé la « Mitteleuropa » qui va se retrouver progressivement chassée, passant en France, passant à Paris et puis se retrouvant donc finalement à Marseille, qui était le point final. Avant, c'était à la fois, je dirais, éventuellement un havre, mais c'était aussi en même temps... Une nasse, puisque de là, il fallait pouvoir partir. Et je pense que tout à l'heure, on pourra aborder donc justement ce qui s'est passé à ce moment-là et tout le travail qui a été fait, non seulement par Varian Fry, mais aussi par d'autres personnes qui l'ont aidé dans cette période donc de 40 à 41, qui est un élément important et que nous pensons qu'il est intéressant aujourd'hui que les Marseillais puissent redécouvrir une période qui n'est pas forcément très connue actuellement.
C'est justement cette période qui m'a passionné parce que
Michal Lasnowski.
Je me suis rendu compte en étudiant justement mon compatriote Franz Werfel, qui est un Pragois, qui était né Pragois. Après, il est devenu viennois. Après, il a dû quitter Vienne. Il est devenu un peu parisien. Il s'est installé à Sanary, près de la mer. Et puis, il a dû continuer sa fuite avec sa femme Alma Mahler. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'histoires qui se ressemblent, mais en même temps qui sont très individuelles. Et on voit les intellectuels, les artistes, les compositeurs, les peintres, les philosophes, plein de gens qui sont même pas très connus, mais qui étaient obligés de quitter leur pays, donc surtout Europe centrale, mais pas seulement, parce qu'il y avait après, il y avait même tous les surréalistes de Paris qui étaient obligés de partir. Ils se sont retrouvés ici et il y avait un bouillon de culture à Marseille. Ce que j'ai dit, c'est Marseille qui est devenu pour la première fois capitale européenne culturelle en 1940, même si ce n'était pas très officiel. Là, dès qu'on commence à voir un peu, étudier, lire les choses, les souvenirs, les témoignages sur cette période, on est vraiment ébloui par cette création et créativité de ces gens qui étaient en même temps en fuite, qui étaient menacés en vie. Et donc, ils parlaient en même temps de leur expérience, mais ils créaient aussi des choses qui étaient complètement pas marquées par cette période, par cette terreur. Et là, dernièrement, là, j'ai appris qu'un compositeur que j'apprécie beaucoup, mais que les Tchèques en général apprécient beaucoup, qui s'appelle Bohuslav Martinů en tchèque, Martinů peut-être en français, a composé aussi ici. Il habitait pendant un certain temps à Aix, en Provence. Il est allé en tramway à Marseille pour récupérer le visa américain. Il espérait partir en Amérique. Finalement, il a réussi. Il a composé deux œuvres ici aussi en France. Donc la Sinfonietta Giocosa, qui est quand même un morceau très plaisant. Et on ne voit pas du tout le stress de la guerre, de la fuite, tout ça. Et c'est son dernier morceau écrit en Europe. Il y a vraiment cette culture, cette passion de culture. Et c'est quelque chose qui dépasse complètement ce qu'on vit en Europe centrale, sur la terreur, le fascisme, le nazisme, donc cette force politique un peu déchaînée. Cette force de la culture, de la création reste pour moi quelque chose qui me donne de l'optimisme pour pouvoir créer et participer à la création.
Ce qui me semble incroyable pour nous tous, c'est que effectivement, bon, Michel a écrit ce texte, en fait, il n'était jamais venu à Sanary.
Fred Smetana.
Je ne sais pas s'il était venu déjà à Marseille ou pas.
À Marseille, rapidement, mais je me suis rendu compte du tout du lien.
Entre toutes ces choses, et que ça a été le point de départ de rencontres vraiment importantes. Et d'un projet justement qui va se poursuivre et se développer pour Marseille 2013, dont on donne déjà un petit aperçu maintenant, et qui a favorisé donc des rencontres avec Henri Dumollier, ici présent, qui y participe, avec Maurice Vincent, puis avec d'autres gens, avec l'INA, la Bibliothèque de l'Alcazar, et d'autres partenaires, le Consulat des États-Unis, la Fondation Varian Fry. Et ça, c'est vraiment important, c'est qu'il est la base vraiment de rencontres, à la fois de personnes et puis de gens qui quelque part ont envie de faire redécouvrir cette histoire ici.
Oui, il ne faudrait pas oublier non plus, puisqu'on On cite un peu tout ce partenariat, aussi le camp des Milles, effectivement, qui est un élément important, je dirais, dans notre première approche. On a parlé d'un triangle entre Sanary, on ne l'a pas dit peut-être tout à l'heure suffisamment, mais qui a accueilli, donc, mais bien avant d'ailleurs 1940, déjà beaucoup d'intellectuels et écrivains allemands qui étaient venus ici. D'ailleurs, c'est un peu Thomas Mann qui avait été un peu le premier à venir aborder cette petite ville. Et d'ailleurs, à Sanary, contrairement à Marseille, il y a aujourd'hui des plaques dans les rues qui indiquent un peu les lieux où ont vécu donc un ensemble d'intellectuels qui ont été justement aidés dans cette partie par des habitants et autres. Et l'autre partie du triangle, c'est effectivement le camp des Milles, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce camp des Milles, donc, qui se trouve à côté d'Aix-en-Provence, une ancienne briqueterie, a été un lieu d'internement. Dans un premier temps, disons plutôt, comme on dirait maintenant, soft, mais qui s'est terminé après, malheureusement, petit à petit, avec les éléments que l'on connaît, c'est-à-dire des convois de déportation. Et il y a eu là-bas toute une histoire qui va être d'ailleurs reconstituée, mieux présentée, et présentée plutôt très prochainement, donc dans ce camp. Et donc c'est ça qui nous a, au départ, permis de bâtir ce qu'on appelait l'Europe intellectuelle en fuite, parce qu'on considère effectivement que on a une réflexion importante à faire sur cette période, et on verra peut-être tout à l'heure, mais dans ce projet 2013, justement, c'est de prendre en compte un peu ce que disait Micha tout à l'heure, c'est-à-dire ce bouillonnement culturel, de savoir vers quoi il est allé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a permis à ces intellectuels après, dans les pays d'exil où ils ont été, de continuer, est-ce qu'ils ont influencé aussi ces pays, comment des choses se sont passées. Et puis on a aussi, je dirais, le cheminement de l'histoire qui nous interpelle. On a l'intention de faire aussi une partie de la manifestation sur le fait que beaucoup de ces intellectuels allemands se sont retrouvés aux États-Unis après le moment de la guerre froide, dans des conditions de suspicion, de contraintes liées à ce qu'on appelait le maccartisme. Tout ça, ce sont des éléments qui sont intéressants dans le parcours de l'histoire, et qui sont les parcours aussi des individus. Tous ces intellectuels, c'est le bouillonnement de la création, mais c'est aussi en même temps le désarroi des individus devant des situations, et c'est-à-dire aussi leurs petites, les petites choses. Je veux dire, pour ceux qui ont vu la pièce, c'est on se plaint de différentes choses, et je crois que moi, dans toutes les lectures que j'ai faites de Walter Benjamin ou autres, on s'aperçoit à la fois de la grandeur des personnages et leur petitesse, et c'est ça qui est aussi poignant, je dirais, dans tout ça, et qui, moi, m'a toujours beaucoup touché, qui m'a impliqué, je dirais, beaucoup mieux à travailler sur cette histoire.
Ça, c'est très personnel. Ce n'est pas une histoire, disons, politique, ce n'est pas idéologique, c'est vraiment très personnel. C'est lié. C'est les gens très complexes qu'on rencontre dans ces raccourcis. Je pensais à Mary-Jane Gold qui a dit que à l'époque, elle a vécu une année, l'année la décisive, même Valiant Fry, décisive de sa vie. C'est en densité tout ce qui est héroïque chez les gens, et ils ont vécu en même temps leur vie très, très intense, personnelle, donc c'était complètement lié. Là, on voit, c'est pourquoi c'est tellement frappant, parce qu'on voit des gens très complexes et très, très forts, ou très faibles, mais en raccourci. Donc c'est pas les caricatures, c'est le vrai contraire. Parce que la pièce se déroule, on dit, sur un flanc des Pyrénées. Et là, j'ai vu un peu l'image de l'hôte qui se retourne pour voir ce qui se passe avec Sodome. Et il regarde un peu ce qui reste derrière eux. Donc c'est vraiment l'Europe au-dessous d'eux. Et en même temps, c'est justement cette petite histoire, parce que quand Valiant Fry décrit comment ils se sont lancés sur la voie vers... ils se sont quittés près d'un cimetière, là, et ils se sont mis à monter à la montagne. Lui, il a pris le train pour passer en Espagne, ils se sont retrouvés de l'autre côté de la frontière. Donc ça aussi, il y a cette petite chose. Est-ce que, par exemple, Franz Werfel ou Heinrich Mann pourront passer par les Pyrénées physiquement, parce que c'était des intellectuels âgés et du bistrot. Ils n'ont jamais fait du sport.
Non.
Par exemple, Feuchtwanger, c'est un autre cas là. Feuchtwanger qui s'est entraîné régulièrement, mais c'est aussi une histoire, on en parle aussi, de Feuchtwanger. C'est aussi un personnage justement lié à Caen des Milles, là, parce que là, lui, il était là. Il a écrit un magnifique, bien, un livre très, très dur plutôt que magnifique, sur le train fantôme et sur le camp des Milles qui s'appelle Diable en France. Il y a cette grandeur et petitesse en même temps. Et donc c'est les gens. C'est les gens qui vivent des choses terribles, très fortes, qui montrent leur grandeur ou petitesse.
C'est sûr. D'ailleurs, le suicide de Walter Benjamin après la frontière, je veux dire, c'est aussi un élément qui est terrible, parce que arriver à un moment à ne plus même analyser la situation, parce qu'elle n'était pas aussi catastrophique que ça, et je veux dire, d'être dans le désespoir, quoi. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se sont passées qui me paraissent effectivement très intéressant. Et en même temps, cette histoire, puisque tu as cité Marigold, je veux dire, c'est aussi que on pourrait presque faire une bande dessinée avec Vryan Fry et son équipe qui travaillent dans une baignoire à l'hôtel de Splendide, où il y a Marigold qui fréquente aussi quelques voyous notoires de Marseille à cette époque-là. Donc, c'est une équipe en même temps qui vit d'une manière comme ont vécu beaucoup les gens ici, étant dans les cafés, inventant des choses, et il y a à la fois rien de triste dans cette histoire, et en même temps beaucoup de courage en même temps. Donc c'est assez intéressant, ce mélange que l'on peut trouver à ce moment-là dans cette idée de sauver des gens, qui ne se passe pas uniquement par les chemins habituels et, je dirais, les choses installées d'une manière peut-être plus bureaucratique. Et ça a été un élément qui, à mon avis, est très important, quoi, dans tout ce qui s'est passé.
Il y a un enchaînement d'histoires aussi.
Michal Aznowski.
Parce qu'on parle d'une histoire, disons, il y a il y a longtemps, il y a combien ? Il y a 69 ans. Par contre, on retrouve que jusqu'à maintenant, il y a les suites de tout ça. Et il y a des histoires des gens dont, par exemple, il y avait un consul tchèque à l'époque qui siégeait à Marseille, qui a aidé beaucoup aux gens autour de Varenfa et aux autres, parce qu'il a fait des faux passeports tchécoslovaques aux gens. Il s'appelait Karel Vochoč, Vochoč en tchèque. Je to tak, jako,
je to tak, no.
To, jak byste četla francouzsky?
Já, no, radši bych to nečetla. No.
J'imagine pas comment les français ont dit le mot Vochoč. Et donc, Vochoč était quelqu'un qui était vraiment très courageux, qui a fait beaucoup, beaucoup de visas, de faux visas, de faux passeports tchécoslovaques à l'époque, à Marseille même. Et lui, donc, à la fin de l'histoire, je pense qu'en 1942, il a réussi aussi à s'enfuir aux États-Unis. Il est revenu après à Londres. Il a aidé au gouvernement tchèque en exil à Londres. Après, il est revenu en Tchécoslovaquie en 1945. Donc, sauvé, content de pouvoir être dans le pays libéré. Et après 1948, il a été condamné par les communistes et il est mort à cause de ça. Donc, comme il y avait des intellectuels qui ont souffert aux États-Unis sous McCarthyisme, il y avait même les intellectuels qui sont revenus vers à l'Est, qui ont souffert par justement cette deuxième, on en parle dans la pièce, du deuxième mal, deuxième fascination idéologique. Et dans la pièce, c'est présent. Il y a cette rencontre de grandes fascinations du XXe siècle, dont fascisme et communisme. Et la discussion n'est pas finie, évidemment, et malheureusement.
Justement, si on veut penser à la pièce, certaines personnes ont pu demander mais pourquoi avoir choisi ces deux-là plutôt que d'autres, puisqu'en fait, il y a, parmi toutes les personnes qui ont pu être sauvées par Varenfra, il y en a eu énormément. Il y a quand même d'autres grandes personnalités. Et c'est vrai que c'est intéressant, je crois, d'avoir choisi justement ces deux-là, parce que les deux sont tellement opposés que ça donne effectivement des facettes très, très, très différentes et très intéressantes entre un qui est Franz Werfel, d'origine juive et qui a plutôt des idées un peu révolutionnaires, on va dire. Et puis elle, qui appartient à une grande famille aristocratique viennoise, plutôt pro-nazi quand même, hein, de en tout cas ses parents, et puis elle, bon, ben, elle n'était pas spécialement pour les juifs. Et la contradiction, c'est qu'elle n'a que des maris juifs à part un, Gropius, et qu'elle part quand même avec Werfel, qu'elle se sauve comme si elle-même était pourchassée comme les autres. Et donc du coup, ce couple devient très emblématique justement d'une opposition de l'époque, de pensées très divergentes et de milieux aussi. Donc c'est vrai que les avoir choisis, finalement, c'est plutôt intéressant parce que ça ouvre le questionnement et le problème. C'est vrai qu'on peut se demander comment cette femme incroyable qui a eu quatre maris, un certain nombre d'amants, tous illustres et célèbres, a pu justement tomber dans cette histoire et se retrouver dans les Pyrénées alors qu'elle était plutôt habituée à être dans des salons elle aussi. C'est sûr que ça donne à l'histoire quelque chose d'un peu incroyable et qui est pourtant réel.
C'était aussi intéressant pour moi en tant qu'auteur là, choisir cette femme-là parce que il y a des gens qui s'expriment dans des phrases un peu à double sens, un peu, je dirais, impressionniste. Et là, elle est expressionniste en son expression, dans sa manière de parler. Elle dit des choses comme elle les voit à ce moment même. Et si elle les voit différemment dans 10 secondes, elle le dira aussi clairement, différemment, dans 10 secondes.
Peut-être bien qu'il va mourir. Ce serait peut-être une délivrance, non? J'ai du poison. Je pourrais mourir aussi, non? Ainsi est morte l'égérie du monde artistique viennois au cours d'une randonnée en montagne. Le diront-ils ainsi? Non. Ils comprendront que c'était un acte de révolte. Le monde doit bien comprendre ça, non? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut seulement y comprendre quelque chose? Est-ce que quelqu'un s'intéresse à quelqu'un? Comme une bête traquée. Mais qu'est-ce que je fous, moi, avec ces juifs? Pourquoi me faut-il fuir à moi aussi? Moi, une parfaite arienne. Quand je te regarde, Franz, je me dis, oui, j'ai profané ma propre race. Mais pourquoi n'ai-je jamais pu vivre sans vous, les juifs? Vous qui avez provoqué en moi tant de colère. Qu'est-ce qui m'attire comme ça chez eux? Cette finesse? Ce monde de l'esprit qu'ils portent en eux depuis des siècles? Il y a eu parmi vous tant de génies, tant de grandeur d'âme. Et qu'en reste-t-il? L'Europe, là, en bas. L'unique bûcher d'une culture millénaire. Pshhh.
On est toujours en bagarre avec elle. On ne sait pas exactement ce qu'elle va faire. Et en même temps, on voit que c'est une femme pourtant consistante. C'est une égérie viennoise. D'ailleurs, elle est nommée dans la liste de Frey, muse, la muse. Et donc, c'est un beau métier, la muse, je trouve. Et autour d'elle, il y avait vraiment tous les meilleurs compositeurs, surtout compositeurs, mais autres artistes, peintres, sculpteurs, écrivains viennois. Et elle a toujours été du haut niveau. Pendant des dizaines d'années, c'était pas justement, et Werfel s'est exprimé, elle était seulement, pas seulement liée à l'époque de l'Empire, de fin de l'Empire, mais aussi elle était liée à la modernité viennoise, donc disons par exemple Schönberg.
Lorsqu'elle a épousé Gustav Mahler, elle était très jeune.
Ça a commencé par là.
Et elle était quand même une excellente musicienne, elle composait. Et finalement, ce mariage a fait qu'elle a été quand même un petit peu frustrée et dépossédée de son art par Mahler. On dit même qu'il lui a un petit peu piqué même des choses. Alors bon. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a eu ensuite cette nécessité de vivre vraiment et de se représenter elle-même plus tard avec ses autres maris ou conquêtes. C'était sans doute une personnalité assez incroyable, surtout pour l'époque, parce que quand même les femmes n'étaient pas encore vraiment libérées à cette époque-là, donc elle fait partie quand même de celles qui ont réussi à avoir une vraie identité.
Elle jouait divinement.
En tant qu'artiste, parce que sans doute c'était une grande artiste, elle avait une telle fascination pour les artistes que justement ce paradoxe entre le fait d'être d'une famille un petit peu antisémite ou même carrément, et même elle d'avoir un petit peu ces idées-là, ne l'a pas empêchée d'avoir vraiment l'admiration pour l'artiste et non pas pour la personne en tant que juif ou pas juif, etc. Et comme il se trouve quand même qu'un certain nombre de grands artistes ou intellectuels de l'époque étaient juifs, et ça c'est, voilà, c'est une banalité presque, elle s'est rapprochée des artistes qu'ils étaient avant tout.
On voit aussi la force de la création. Et c'est la plus grande raison pourquoi revenir à cette période-là. Parce qu'il y a en plus beaucoup de choses qu'on ne connaît pas bien, qu'on peut découvrir et qui font partie de la richesse de l'histoire. Justement, on en a parlé aussi, c'est avec Amérique, ça apportait beaucoup en Amérique. Il y avait plein d'intellectuels, de la psychanalyse en Amérique, la peinture. Et il y avait Peggy Guggenheim qui faisait partie aussi de cette fuite. Donc, il y a cette richesse qui a fécondé beaucoup l'Amérique culturellement.
Aussi.
Presque tous sont passés par là.
Oui. Peut-être il faudrait justement rafraîchir un peu la mémoire des Marseillais, parce que ce que vient de dire Michel est important. Quand on voit la liste, on s'aperçoit effectivement que le mouvement surréaliste était aussi très important au niveau des gens qui sont partis, mais ils ont travaillé ici aussi à un certain nombre de choses, et je veux dire que ce soit le cubain Wilfred Olam, Oscar Dominguez, André Masson, il y a Max Ernst, etc. Beaucoup de gens seront passés par là. Et à Marseille, on a eu l'occasion, justement, c'était important de faire ce rapprochement. Il y a quelques années de cela, il y a eu une très grande exposition à Marseille, c'est appelé La Planète Affolée, qui était la vieille charité, qui était consacrée justement au surréalisme. Alors pourquoi Planète Affolée? Parce que c'est un peu de la même manière, c'est-à-dire c'est la dispersion. À un moment, le regroupement, et après la dispersion. C'est-à-dire que tous ceux qui sont retrouvés ici sont partis dans différents pays et ont essaimé un certain nombre de choses, un certain nombre de courants. Et je crois qu'effectivement, ce qu'on vient de dire sur les relations entre les États-Unis et Marseille, il y a d'ailleurs eu aussi un excellent livre qui s'appelle Marseille-New York, qui a été édité par André Dimanche ici, avec un texte de Bernard Noël, et beaucoup d'éléments donc justement sur cette créativité qui s'est après déplacée donc de l'autre côté. Et là, on est justement dans cette joie de savoir que, à côté de ce que les choses ont pu être dures et la tristesse, le désespoir que certains ont pu avoir, il y a tout ceci après qui s'est passé, et je crois que c'est un grand soulagement de savoir que de toute façon, à un moment, la création peut dépasser tout le reste et nous permettre d'aller plus loin et de savoir qu'on a confiance dans l'avenir. La France est envahie, il y a une zone libre, hein, enfin dite libre, qui n'était pas autant que le mot veut le dire. Et de toute façon, à un moment, il y a un port, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'il faut bien prendre en compte. Par où pouvait-on sortir? Il y avait deux endroits, il y avait, disons concrètement, il y avait Marseille et Bordeaux, pour les grands lieux de s'évader de cet endroit, parce qu'on est dans une nasse, hein, je veux dire, on l'a dit. Il y a d'ailleurs le document qui est sorti à l'époque, documentaire de notre ami Thierry Vendamiche, qui s'appelle « La filière marseillaise », mais c'est aussi le piège dans son titre. Et donc, effectivement, c'est ça qui est là. Donc, il faut espérer que jamais des conditions de ce type se retrouveront. Mais nous sommes, je dirais, non pas un accident de l'histoire, mais une nécessité à un moment de cette histoire. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon point de vue.
Je pense aussi, ce qui est très intéressant, c'est de relier Marseille à l'Europe. On a trop souvent la tendance à associer Marseille au sud, regarder vers la Méditerranée. Et tout d'un coup, on se rend compte de ce lien incroyable qui a pu exister entre Marseille, la Provence, enfin en général, et l'Europe, l'Europe de l'Est, l'Europe centrale. Et ça, je crois que c'est vraiment sans doute peut-être une découverte pour beaucoup, qu'il y a vraiment là eu un lien extrêmement important qui a laissé des traces, et que donc Marseille n'est pas seulement une ville ouverte sur l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi vraiment sur le cœur de l'Europe et une partie importante de la culture européenne. Et ça, je crois que c'est vraiment très, très émouvant de s'en rendre compte.
Ce qui est touchant, parce que je suis passé en tant que touriste pour deux jours à Marseille avant de venir travailler un peu, entrer en contact dans le cadre du projet. Mais justement, je me suis rendu compte qu'à Marseille, il y avait beaucoup de choses qui sont arrivées par Marseille en Europe occidentale, dont les Grecs, les Phocéens. On voit arriver la chrétienté avec l'abbaye Saint-Victor. On voit aussi la peste arriver par Marseille en Europe. Et là, c'est de l'autre côté que ça s'enfuit vers ailleurs. Donc c'est vraiment un endroit de passage, mais avec aussi d'un arrêt. Parce que je pense qu'à Marseille, ce qui est passionnant, les gens ont profité de cette culture, de cette richesse, et ils ont fait beaucoup de concerts, de spectacles. Pianiste Phil Kouchny, qui a donné ce concert ici à Marseille. Et lui, il est allé visiter avec des amis voilà, le village de Cassis, à l'époque le village, et il est tombé amoureux de l'endroit, et il se dit, moi, je pars nulle part, je reste ici, personne ne me chassera d'ici, donc il a jeté son visa américain, parce que lui, il l'avait. Il n'est pas parti, il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a pas longtemps, il est mort à Cassis. Donc voilà, c'est encore une autre histoire. Et c'est grâce justement à la comtesse Pastret, parce qu'il a pu vendre ses tableaux, ses dessins à elle. Elle a aidé d'ailleurs à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens autour de lui. Donc, il y avait une vraie culture à l'époque. Je me pose la question, comment faire, si j'étais un Marseillais, comment je faisais pour faire revivre ça? Et justement, je pense que c'est très bien de se plonger un peu dans l'histoire pour se nourrir, pour voir que c'est très complexe, on ne peut pas faire artificiellement, on ne peut pas se dire, ah oui, on a de l'argent, on va faire quelque chose. Mais justement, de voir combien ces gens étaient passionnés. Vraiment, ils vivaient à plein temps, à toutes les forces. Et avec toutes les forces, et avec toute la créativité qu'ils avaient.
Je pense aussi que c'est certaines personnes, donc la comtesse Pastret ou Varian Fry et tous ceux qui les entouraient, avaient vraiment conscience qu'il était indispensable, essentiel de sauver cette culture, de sauver quelque chose qui était justement en passe d'être exterminé, et que c'était essentiel pas seulement pour nous-mêmes mais pour l'humanité, que c'est vraiment le sauvetage d'une culture, bon, même si on en a fait entre guillemets cadeau aux États-Unis après, mais qu'il était vraiment essentiel de sauver, ouais. Ça, vraiment. Ils avaient cette conscience-là, il y en a eu quelques-uns, tout le monde ne l'avait pas, mais je crois qu'eux l'avaient vraiment d'une manière très, très forte, il me semble.
Varian Fry était fondateur d'une revue artistique et littéraire. Donc il est parti avec cet état d'esprit. D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes lui ont reproché. Oui. On a dit, bon, finalement, il y a beaucoup de gens qui se sont adressés à vous et qui n'ont rien eu, et pourquoi ce choix? Alors effectivement, c'est une vraie question, puisque par ailleurs, pour ceux à qui on a refusé le visa, c'est aussi des gens dont on sait que le billet de retour, ça a été souvent les camps de concentration, ou en tout cas la mort sur place, ou différentes choses. Mais je crois effectivement qu'il y avait un objectif, et que Varian Fry, d'une certaine manière, a assuré ce qui lui apparaissait être sa mission. Et de ce côté-là, je veux dire, je pense que c'était un reproche qui n'est pas fondé, parce que par ailleurs, je pense qu'il aurait été difficile pour lui, dans les conditions dans lesquelles il a travaillé, de faire beaucoup plus, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on lui a enlevé rapidement son passeport, qu'il a été obligé de partir. Bon, c'est vrai qu'il était resté avec d'abord pour 3 semaines, et puis il est resté un peu plus d'1 an, mais il a été obligé de partir, et donc on l'a accompagné à Portbou. Il y a d'ailleurs une très belle photo de toute son équipe qui l'accompagne là-bas. Et je pense que s'il avait voulu faire autre chose, il aurait été encore plus rapidement, je dirais, empêché à la fois par la police de Vichy et aussi par les Allemands.
Thank you.
Donc Henri pourrait juste dire un petit mot des films qui vont être projetés à...
Donc à la bibliothèque au cours Belsunce. On va présenter, ça sera une première série, il y en aura d'autres dans le futur projet, une série donc de documentaires et aussi un film. Alors je commence par le film parce que c'est un élément important par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est Transit, donc réalisé par René Alliot, mais c'est tiré donc du roman éponyme de Anne Segers, donc qui elle-même a été une des intellectuelles et écrivaines qui a été sauvée par Varian Fry. Et donc Transit se passe à Marseille et raconte cette histoire incroyable dont on a parlé déjà tout à l'heure. Et donc c'est vendredi et samedi, le 13 et le 14 novembre, l'après-midi à partir de 17h, donc on pourra voir Transit. Mais il y aura aussi, à partir du jeudi, des documents extraits de l'INA qui présenteront à la fois des portraits de Varian Fry, un grand portrait de Thomas Mann dans la série qui s'appelait Un siècle d'écrivains, qui est un grand documentaire sur vie de Thomas Mann. Et aussi en même temps, quelqu'un dont on n'a pas parlé là maintenant, mais qui est aussi très intéressant dans cette période, c'est Arthur Koestler, qui a vécu une vie absolument incroyable. Et je crois que ce témoignage sera intéressant. Et puis, ce film dont je parlais tout à l'heure, je n'avais pas donné le bon titre, c'est « L'état de piège ou la filière marseillaise ». Donc, un documentaire qui est fait par Thierry Vandamiche et qui représente un peu ce qui s'est passé à Marseille à travers non seulement des reconstitutions, mais aussi des derniers témoignages de gens qui ont vécu cette époque. Et Thierry Vandamiche était parti avec ses parents, d'ailleurs, en exil aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose qu'elle a très bien connu. Et puis, dernier élément qui est important et dont je crois qu'il faut mettre en évidence par rapport aux anniversaires dont on sait maintenant, donc l'anniversaire de la chute du mur, c'est le mardi 17, donc les murs de velours, donc qui sera toujours à l'Alcazar, une évocation à travers des textes donc de ce qu'a été la révolution de velours. Et ceci terminera donc notre première phase à Marseille, en espérant qu'en 2013, nous allons revenir avec encore beaucoup plus de choses à présenter et à faire réfléchir.
Et on voudrait accueillir maintenant notre vieux compagnon de combat, le capitaine Vladislav Norko, qui nous a rejoint parce que c'est un petit peu grâce à lui qu'on est à Marseille. Donc on tenait à l'inviter aujourd'hui.
Je voudrais dire moi que on s'est connus à Prague il y a beaucoup d'années déjà. Donc la connexion entre Prague et Marseille, ça fonctionne toujours.
Merci pour le mot de capitaine d'abord, parce que je ne suis qu'un simple matelot. Mais effectivement, on se connaît depuis très très longtemps. À Prague, dans cette ville qui est complètement, si on sort du sillon américano-germanique, est une ville passionnante, qui est une ville où on a la chair de poule de bonheur, à chaque endroit, à chaque quartier. C'est une ville à surprise, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Marseille, qui est une ville chaotique et qui tourne le dos de toute façon à la capitale et qui regarde vers la mer. Je n'ai pas eu la chance, je le verrai ce soir ou demain, de voir le spectacle, mais je connais le travail de Golem Théâtre, de Michal et puis de Fred Smetana. Et j'y retrouve toujours un plaisir entre rire et larmes. C'est ça qui me fait un bonheur fou. Et c'est comme si nos villes étaient jumelées.
En tout cas, c'est vrai que la rencontre avec Vlad était autour aussi d'un spectacle un peu inspiré de Tchéki, puisque c'était Schweik au Terminus du Monde, et que son dernier spectacle s'appelle « Mon Golem ». Donc avec tout ça, on ne peut que se retrouver à Marseille.
Oui, ce sont des nœuds qui se nouent et qui se renouent. Et comme disent les psychanalystes sérieux, je veux dire qui ont une plaque en cuivre devant leur échoppe, il faut faire attention à ne pas dénouer tous les nœuds.
Je pense qu'on a abordé une chose qui est en même temps aussi triste, parce que c'est pas tout le monde qui a réussi à sortir, qui est parti à temps. Il y a plein d'histoires, plein de créateurs qui n'ont pas pu finir leur œuvre et qui sont morts à la même période, dont Joseph Roth. Il y a beaucoup de gens, de créateurs, qui sont morts. Juste chez nous, c'est Karel Čapek, le plus grand écrivain de la période, et avec qui une certaine période est finie aussi, et qui n'a pas eu la suite. Donc là, c'est autre et plus triste page de cette histoire-là.
C'est qu'il faut pas penser que ce sont que les Juifs qui fuyaient et qui étaient poursuivis. Je crois que c'est important de dire que c'est tous ceux aussi qui étaient en opposition au régime. Et donc, parmi eux, évidemment, il y en avait un certain nombre, mais que ce n'était pas seulement les Juifs. C'est vraiment tous ceux qui étaient contre et qui étaient poursuivis pour leurs idées ou pour une raison, justement, qui les opposait à ce qui se passait. Je crois que c'est important, justement, pour pas entrer dans un communautarisme. Ça pouvait être n'importe qui n'était pas d'accord. Donc ça, je crois que c'est important de le dire.
On a une pensée pour Rosa Luxembourg, qui a été tabassée, et dans la voiture qui l'emmenait pour la jeter dans le canal, elle était encore en vie tellement elle avait une force de vie. Donc on a dû lui mettre une balle dans la tête pour la jeter dans le canal. Mais ça, ce sont des histoires tristes, certes. Ça fait partie de notre monde. Mais il y a des histoires quand même beaucoup plus rigolotes. On parlait de Schweik tout à l'heure, parce que Schweik, le soldat, le brave soldat Schweik, personne ne sait encore aujourd'hui s'il était idiot ou s'il faisait semblant d'être idiot. Il était partant pour toutes les aventures et comme Garcimore, c'était toujours encore raté. Et ça donne un humour fou. Vous êtes bien sur Radio Grenouille. Restez sur votre nénuphar 88.8.
Au théâtre, on invente parfois la vérité pour mieux la comprendre. Et sur scène, comme à la radio, on ment aussi, mais comme des arracheurs de temps, pour mieux plonger dans les turbulences d'une époque et écouter ses résonances, là où le monde, les mots et les sons ne cessent de se joindre et de se heurter. Vous venez de traverser près d'une heure avec Frédérica Smetana, Michal Lasnowski, Henri Dumollier et Vlad Snorko, qui présentent la pièce Alma et Franz au Théâtre de l'Anche jusqu'au 14 novembre. Vous pourrez retrouver également la suite du projet Europe intellectuelle en fuite, avec la création Les Murs de velours, à l'Alcazar le mardi 17. Et bien sûr, toutes les infos en ligne, www.hoteleuropa.fr. Et bientôt sur Grenouille.